chers auditeurs, au micro Paul Ousine-Yerson, qui a le plaisir de vous présenter Chronique pour la paix, une nouvelle émission sur Radio Shalom. Aujourd'hui, je vais interviewer Denis Charbit, qui a participé de très près à l'exceptionnelle exposition sur les Juifs d'Orient, organisée à Paris jusqu'au 13 mars, à l'Institut du Monde Arabe. Dans le cadre de cette perspective rétrospective, Denis Charbit est intervenu pour traiter des aspects de la période contemporaine, c'est-à-dire la période qui inclut la création de l'État d'Israël en 1948. À cette date, plus d'un million de Juifs habitaient les pays du Maghreb et du Mashrek. Aujourd'hui, il en demeure 5000 tout au plus, la plupart vivant au Maroc. On parle peu de ces Juifs d'Orient et de leur départ, je mets départ entre guillemets, des pays arabo-musulmans. À l'instar de certains qui, en Israël, font l'impasse sur l'exil des Palestiniens suite à la guerre d'indépendance de 1948. Mais peut-on comparer ces drames humains l'un à l'autre? Ce n'est pas évident. Denis Charbit est citoyen israélien, né dans une famille juive orientale. Il est maître de conférences en sciences politiques à l'Université ouverte de Tel Aviv. Il a écrit de nombreux livres sur le sionisme, dont le dernier en date, si je ne me trompe pas, Israël et ses paradoxes, est publié aux éditions Le Cavalier Bleu. Denis, première question. L'Institut d'Arabe a été longtemps un haut lieu où était célébré le culte sacré de la cause palestinienne et de l'antisionisme. Quand on vous a demandé de participer à la période contemporaine de l'exposition sur les Juifs d'Orient, est-ce que ça vous a fait peur? Comment avez-vous réagi?
Alors tout d'abord, je dirais, cher Paul, que je ne souscris pas à la première phrase considérant que l'Institut du Monde Arabe était voué à l'antisionisme. C'est vrai qu'il y avait un tabou sur toute exposition ou conférence qui pouvait porter sur Israël ou sur les Juifs d'ailleurs en général et les Juifs du Moyen-Orient. Et pour répondre à ta question, lorsque j'ai été consulté pour participer comme membre de la commission scientifique de l'organisation de l'exposition et qu'on m'a de surcroît informé que cette exposition aurait lieu à l'Institut du Monde Arabe, j'ai considéré que c'était une excellente nouvelle, que c'était un choix très courageux, très important, très significatif, et que, quand bien même je ne suis pas spécialiste, j'ai arrivé peut-être deux, trois fois d'être membre de commission pour organiser de l'exposition, mais là j'ai tout de suite souscrit à la demande de Benjamin Stora, qui était le président de cette commission scientifique, et je dois dire que ça a été un travail extraordinaire, fait dans une très très grande entente avec les trois commissaires, Elodie Bouffard, Anna Boganine, Nada Yoladat. Ça a été vraiment un travail vraiment très très utile et très intense, je dois dire.
C'est une réussite.
Une réussite de ce point de vue-là, et le résultat le prouve, incontestablement.
Oui, il y a beaucoup de monde qui va voir ça, justement, parce que c'est exceptionnel et c'est inédit. Voilà. Alors, toujours une question, Denis Charbit. Jacques Lang, le président de l'IMA, a expliqué que cette exposition avait été préparée longtemps avant les accords d'Abraham de 2020, qui ont été signés entre Israël et plusieurs pays du Golfe Persique, notamment, et avec le Maroc aussi. Cependant, est-ce que vous voyez dans cette exposition une certaine forme de reconnaissance historique qui pourrait faciliter les perspectives de paix entre Israël et les pays arabo-musulmans?
Je vous ferai une réponse, d'abord générale avant de répondre en particulier à la question que vous me posez. La question générale, c'est que, ou la réponse plus générale, plus théorique, c'est que on sait bien que dans l'histoire des relations diplomatiques, on appelle ça la diplomatie du ping-pong, parfois la tenue d'une manifestation sportive entre deux pays qui ne se parlent pas, qui sont en guerre, peut favoriser par la suite une consultation politique et diplomatique. Et donc de ce point de vue-là, c'est arrivé dans l'histoire. Est-ce que cette exposition permettra aux partenaires d'une éventuelle négociation entre Israéliens et Palestiniens de se retrouver? je dois dire très sincèrement, et je ne crois pas me tromper, non, ne rêvons pas, ne nous faisons pas d'illusions, mais en revanche, quand bien même la diplomatie et la politique peuvent avoir un temps de retard, il est très important, il est même salutaire que des événements un peu hors de l'ordinaire, comme celui-là, préparent en quelque sorte le terrain sur le plan des opinions. Je pense, pour parler de cette exposition, maintenant j'en viens à l'exposition elle-même, pense qu'il est très important pour toutes les catégories de la population française, dans tout le panel des religions ou de la laïcité qu'ils peuvent partager, il me semble très important qu'ils puissent se rendre compte de l'existence d'une culture judéo-arabe sur près de 1500 ans, que cette histoire soit racontée en ne faisant aucune impasse sur ni le début de cette histoire ni sur la fin, même si évidemment il faut bien comprendre, vous avez évoqué le départ des Juifs arabes, ce n'est pas une exposition sur le départ des Juifs arabes, c'est une exposition sur la culture juive dans les pays arabo-musulmans. Mais dans la mesure où bien évidemment on est obligé de montrer aussi l'histoire et le devenir, et là en l'occurrence l'arrêt effectivement par le départ massif de ces Juifs des pays arabes, eh bien je crois qu'il y a quelque chose, je dirais, de très pédagogique, parce que ainsi, d'abord, les Juifs se rendent compte de cette culture-là qu'on ignore en général. On a en souvenir quoi ? Les pogroms, les dîmes, telle ou telle figure comme Maïmonide. Mais finalement, on ne fait pas grand-chose, et cette exposition vient combler une lacune énorme, une ignorance énorme. Elle est importante aussi pour des ressortissants du monde arabe ou de l'islam, qui peuvent se rendre compte que les rapports entre juifs et arabes ou entre juifs et musulmans ne se réduisent pas au conflit israélo-palestinien, qu'il y a toute une histoire très riche, très variée, avec des hauts, avec des bas, mais très, très esthétique aussi. N'oubliez pas, c'est une exposition, c'est pas un livre d'histoire, et ça, je pense que c'est très important par rapport là aussi à l'ignorance qui existe parmi des jeunes arabes et des jeunes musulmans qui n'ont pas connu de juifs en Algérie, au Maroc, en Tunisie, puisque précisément, ça fait plus de 50 ans que la plupart d'entre eux sont partis, sauf, comme vous l'avez dit, au Maroc. Donc voilà, tout ça permet, cette exposition permet de rappeler l'existence d'une grande civilisation, également de faire part de l'histoire, de la manière dont cette histoire s'est achevée, même si, encore une fois, ce n'est pas le centre de gravité de l'exposition.
Oui, bien sûr. Alors, cette exposition est un succès. Elle a été bien reçue, elle a été bien visitée. Cependant, et vous êtes bien placé pour le savoir, il y a eu des polémiques. Vous avez été pris à partie un petit peu, il y a eu des échanges d'articles comme ça. D'un côté, il y a des juifs qui reprochent à l'exposition de faire silence sur la dhimmitude, c'est-à-dire la soumission ancestrale des juifs à l'islam, qui reprochent également de ne pas parler des émeutes anti-juifs qui a eu lieu au moment des indépendances, etc. Puis du côté arabe, on a la même chose un peu. Certains qui accusent l'exposition de légitimer le sionisme et surtout de ne pas évoquer la Nakba, qui est l'expulsion violente des Palestiniens de leur pays. Donc là, on voit qu'il y a encore un peu de ressentiment dans l'air. Comment on peut dépasser cette frustration, ce ressentiment qui persiste ?
D'abord, je dirais que dans ce climat-là, c'est assez rassurant de voir que des deux côtés, des deux parties, les extrêmes, bien entendu, ne perdent pas l'occasion de perdre l'occasion. Voilà, mais c'est exactement ça, parce que, encore une fois, ce n'est pas une exposition sur l'histoire. C'est à travers l'histoire, la représentation de cette civilisation, encore une fois, relativement ivrée. Alors, le problème, c'est que de ces deux côtés, en quelque sorte, vous avez des associations qui s'émeuvent, alors ceci d'une réécriture de l'histoire, parce qu'on n'a pas assez insisté sur le fait que tout n'était que dhimmitude et répression, oppression et calvaire des Juifs, donc la vallée de larmes de l'histoire juive. De l'autre côté, on y voit une légitimation parce qu'on a prêté quelques pièces, enfin Israël a prêté quelques pièces, ou bien parce que on raconte que ces juifs, ben, ils sont pas nés dans le Maghreb et le Machrek comme ça, ils sont venus en partie de la terre d'Israël. On raconte la fin de l'histoire parce qu'il était quand même pas concevable de dire voilà cette civilisation a existé et puis hop elle s'arrête et puis on ne dit plus rien sur ce qui se passe ensuite. Non, moi j'ai insisté beaucoup là-dessus et j'ai d'ailleurs été entendu par Benjamin Stora et par les trois commissaires en disant mais c'est important de comprendre qu'une partie de ces juifs sont partis en Europe, une autre partie de ces juifs, la plupart des juifs du Machrek, surtout un peu moins du Maghreb, mais encore il y a aussi le Maroc qu'on a évoqué tout à l'heure, ils sont partis de l'Orient, ils sont de l'Orient, des juifs d'Orient sont restés juifs d'Orient, si ce n'est que c'est plus dans le même lieu et pas sous la même condition. Donc ça, il fallait le rappeler. Alors bien entendu, quand on a une idéologie qui précède, alors on ne se laisse pas toucher par l'exposition elle-même. Vous savez, moi, ce qui m'a le plus irrité, je l'ai dit effectivement dans plusieurs articles que j'ai commis au cours de cette polémique, mais bon, voilà, qui est derrière moi de toute façon, j'ai insisté là-dessus en disant, mais dites-nous qu'on n'a pas assez parlé du Dimi, dites-nous qu'on a trop parlé du sionisme, mais avant toute chose, parlez-nous de l'exposition, dites-nous quelque chose sur ce qui vous a touché, sur ce qui vous a ému. Et quand des personnes sont incapables de se laisser, transporter par ce qu'ils voient, par les Ketubot, par le manuscrit de Maïmonide, par un tableau de Delacroix, ça veut dire que voilà, ils sont plus capables. C'est très bien d'être politique et je le suis également. Mais il faut savoir faire également la part des choses. Et ça, cette incapacité, cette tentation de ne voir que ce qui est, qui ne correspond pas à leur univers. Bon, bah, c'est très regrettable et c'est effectivement. Mais voilà. Mais je pense que d'une certaine manière. Je dirais qu'ils se ridiculisent eux-mêmes. Voilà, je pense que d'une certaine manière, cette incapacité de regarder une exposition pour ce qu'elle est, après de noter. Vous dites, on n'a pas, pas vous, mais non, on a beaucoup moi. Dit, non, bien sûr, on n'a pas montré tous les pogroms. D'abord, est-ce que vous pensez qu'on a de tout, les pogroms d'Irak, par exemple, le fameux Farhoud de 1915 ? Vous pensez qu'on en a, on a des photos ? Vous pensez qu'il y a des documents ? Non,
il y a
pas
quelques
forcément.
Documents.
Il y en a, mais voilà, en l'occurrence, ce qu'on a préféré montrer, ça c'était le choix des commissaires et je l'approuve entièrement, c'était de montrer des photos, des photographies du pogrom de Constantine, parce qu'elles étaient à disposition et parce que Constantine, ça, elle, c'était l'Algérie à l'époque. Française et que ça serait important. Et je vais vous dire, vous me demandez à ce propos, moi, le premier sentiment que j'ai en voyant ces images, que je voyais pour la première fois, c'était de dire, tiens, j'aurais pas lu la légende pogrom de Constantine, j'aurais pensé que c'était le pogrom de Kishinev. Et pour vous montrer à quel point il y a presque une ressemblance. Mais est-ce qu'on allait montrer toutes les photos, tous les documents reliés à ça? Non. À propos du sionisme, qu'est-ce qu'on a montré? Ben, on a montré, ou du communisme, parmi les juifs, ben, on a montré des premières de journaux pour montrer que ça passait par la presse, que cet engagement politique, que ce soit pour le sionisme, que ce soit pour le nationalisme arabe, ça passait par des journaux. Alors on a montré toute une galerie. On ne pouvait pas tout montrer. Et heureusement, les musées qui vous font des kilomètres de parcours, en général, ratent leur objectif.
On est submergés.
Donc, il fallait chaque fois être très symbolique, très montrer un aspect, laissant deviner qu'il y avait autre chose. Et ceux qui en veulent un peu plus, ben, il y a le catalogue. Et dans le catalogue, on raconte toute cette histoire. Moi, on m'a demandé, par exemple, d'écrire un article sur le sort de ces juifs des pays arabes. Venu en Israël depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Ben voilà, donc ça n'a pas été édulcoré. On n'a pas montré de photos ou de documents parce que ce n'était pas le sujet. Mais en revanche, on en a parlé parce qu'effectivement, un catalogue permet de faire certaines choses que ne permet pas de faire une exposition où il faut choisir. N'oublions pas, la catégorie esthétique doit l'emporter. Il faut que ce soit beau, il faut que ça parle, il faut que ce soit tant,
pédagogique.
Il faut que ça informe. Voilà. Ouais.
Alors, mais est-ce que, en fin de compte, c'est pas aussi parce qu'il y a des blessures qui ne restent cicatrisées, qui ne sont pas cicatrisées, et donc ça fait revivre tout ça? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez, vous, qu'on peut vraiment changer d'époque, Denis Charbit, dans les relations entre Israël et les pays arabes, entre les juifs et les musulmans, sans avoir réglé cette question de relations entre Israël et Palestine ?
Tout à fait. Et ça, je dirais ceci. Moi, ce qui m'a beaucoup
touché,
d'accord, dans cette polémique, c'est de voir que l'écrivain libanais Elias Rouri, tout en ayant été signataire de la pétition, il a signé cette pétition pour condamner le fait que Lima ait négocié le prêt d'œuvres du musée d'Israël et de l'Institut Banksy, mais en même temps... À propos de cette expédition, c'est vrai qu'il faut quand même s'interroger sur la fin de cette civilisation et de mentionner explicitement la responsabilité des régimes arabes dans cette affaire. Alors, bien entendu qu'il y a aussi la Nakba, et il le dit, hein, c'est l'autre pendant, c'est l'autre versant de la Nakba au même moment. Alors, tout ça, oui, c'est important que des intellectuels, à partir de cette exposition, eh bien, oui, reviennent sur cette question-là, qui est longtemps n'a pas fait objet d'histoire. Il y a des livres qui ont été écrits, bien sûr, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup moins parlé, et beaucoup de mémoires s'expriment aujourd'hui, parce que si elles ne s'expriment pas dans les années à venir, on n'aura plus de témoignages. Les archives en Algérie, en Tunisie, au Maroc ou en Irak, elles ne sont pas très riches et elles ne sont pas toujours accessibles dans beaucoup de cas. Et donc, c'est vrai que c'est important si... Enfin, je veux dire, ça peut faire partie des retombées positives de cette exposition que d'ouvrir les mémoires sur une histoire. Effectivement, moi, j'appelle ça dans mon texte une mémoire sucrée-salée. Salée parce que la fin a été souvent difficile. Sucrée parce que il y a aussi une grande nostalgie. Moi, j'entends chez des personnes qui ont grandi en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Il y en a beaucoup moins en France qui viennent d'Irak et du Yémen, mais qui disent effectivement la nostalgie de ces pays-là, de ces contrées-là. Donc on voit que c'est pas seulement une blessure, c'est aussi une blessure, mais tout doit être exposé, pour le coup, et discuté, et peut-être que les expositions arrivent à cela, et tant mieux, ça fait partie, c'est rare qu'une exposition suscite des débats de cet ordre, mais c'est vrai que ça fait partie de l'originalité et du grand courage que je ne cesserai de saluer de Lima et de Benjamin Stora d'avoir
présenté l'exposition. Eh bien, merci beaucoup, Denis Charbit. Alors, on invite nos auditeurs à aller la voir parce que c'est vraiment intéressant, c'est vraiment inédit, c'est peut-être un petit tournant quand même culturel important. Et on vous remercie d'avoir participé aussi à cette émission et on vous dit à bientôt. Voilà, merci. Au revoir chers auditeurs, à bientôt. C'était Chronique pour la paix.